Dieu voulant, dans une semaine, je serai à Johannesburg et ensuite Pretoria et ensuite Kapstadt et Durban et Port Elisabeth, éventuellement aussi dans deux pays voisins. Nous devons racheter le temps. Il est précieux et c'est toujours une grande fortification pour tous les frères quand ils sont affermis dans la parole de la vérité. Nous avons encore aujourd'hui une fois annoncé le jour de la Bible. Nous voulons encore vous tous qui avez des amis, des frères et des sœurs, nous voulons encore, qui veulent avoir une Bible, vous pouvez après encore venir la prendre. Il y a encore quelques exemplaires. Bien, frères et sœurs, nous venons d'écouter une parole merveilleuse de Jacques, le chapitre 5, verset 7. Jacques, chapitre 5, verset 7. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Hier, nous avons parlé, donc Jacques chapitre 5, verset 7, nous avons parlé de ce que signifie le mot avènement. Notre Seigneur disait, je vais vous préparer une place et je reviens bientôt pour vous prendre auprès de moi, pour que vous soyez là où je suis. Pas un enseignement, pas une certaine révélation, mais lui-même qui nous a rachetés et qui est allé nous préparer une place. Il reviendra et prendra les siens. Ensuite, nous avons les paroles merveilleuses dans Matthieu 25 concernant les vierges sages et folles. Et toujours de nouveau, la question est posée de manière nouvelle. Qu'est-ce qui diffère les sages des folles? Les deux ont des lampes, les deux ont l'éclaircissement, les deux sont vierges, pures, n'ont pas été touchées. Où est la différence? Je crois que à Zurich, je l'ai dit, la différence consiste à ce que, par exemple, Marie avait reçu la semence de la parole de la promesse. Et parce qu'elle avait reçu la parole de la semence, de la promesse, l'Esprit vint sur elle. Et c'est ainsi que la parole est devenue chair et a habité parmi nous. Et nous virent sa gloire, la gloire du Fils seul engendré du Père. De la même manière, les vierges sages, maintenant, acceptent, reçoivent, croient la parole de la promesse. Et c'est ainsi que le Saint-Esprit vient sur nous, pour que Christ, à nous, l'espérance de la gloire, soit manifestée et existe et habite. C'est ainsi que la vie de Dieu, à nous, peut être manifesté. Tous, nous savons que la pluie tombe sur les justes et sur les injustes, sur les méchants et sur les bons. Le soleil brille sur tous. Mais la différence est réellement en ce que les sages croient, reçoivent la parole de l'heure, la parole promise, et nous savons que Dieu, d'une manière surnaturelle, a agi dans notre génération. Comment est-ce que le commencement de la nouvelle alliance a eu lieu? Nous avons eu souvent à le dire. Le commencement de la nouvelle alliance, du Nouveau Testament, a commencé d'une manière surnaturelle. Le ciel est descendu sur terre, et l'ange Gabriel a donné à Zacharie la promesse de la naissance de Jean-Baptiste. C'est ainsi, d'une manière surnaturelle, que le Nouveau Testament commence. Le pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament a été placé. Luc 16, verset 16, la loi et les prophètes ont existé jusqu'à Jean. Et c'est à partir de Jean que le royaume de Dieu a été prêché. Un nouveau commencement. Jusqu'alors, tous pouvaient faire ce qu'ils voulaient, ce qu'ils estimaient juste. Mais à partir de ce moment-là, il fallait que seulement ce qui est juste devant Dieu soit fait. Et c'est ainsi que nous avons exposé celui qui reçoit un homme de Dieu, qui prêche la parole de Dieu en vertu d'une vocation divine, d'un mandat divin, reçoit aussi celui qui l'a envoyé. Et celui qui reçoit celui qui l'a envoyé, reçoit la parole avec laquelle cet homme a été envoyé. Car c'est ainsi que c'est écrit, n'est-ce pas, dans l'évangile de Jean, au premier chapitre, au versets 5 et 6. Jean était un homme envoyé de Dieu. Bien-aimé, frères et sœurs, le premier livre que Dr. Lindsay a écrit sur frère Branham est intitulé « Un homme envoyé de Dieu ». Et ça, nous l'avons reconnu. Nous ne sommes pas comme ça passés sans en prendre part, mais nous avons reconnu qu'il y a une promesse qui existe, qui maintenant s'est accomplie. Mais nous avons reconnu la promesse qui existait. Et c'est ainsi que, par la grâce de Dieu, nous avons part à ce que Dieu fait dans le présent. De la même manière, nous savons que après que le ministère de Jean-Baptiste fut achevé, notre Seigneur a commencé son ministère. Et c'est après que le ministère de notre Seigneur et que l'œuvre de la rédemption fut accomplie que l'Église du Nouveau Testament fut née par l'effusion du Saint-Esprit et que tout le dessein du salut de notre Dieu, de notre manière, ainsi pris son cours dans les différentes étapes, si on peut le formuler ainsi. Un ministère a conduit à l'autre et ensuite l'autre et toujours l'autre jusqu'au prochain. Et c'est ainsi que le Seigneur à une église dans laquelle il a établi des ministères, il a placé des dons et des devoirs et des services pour prêcher la parole de Dieu et que nous avons la grâce à la fin du temps de la grâce de vivre maintenant à la fin du temps de la grâce. C'est un privilège, mais ce privilège est lié à une responsabilité. Nous n'avons pas cherché cette responsabilité. Nous n'avons pas imaginé ce privilège. Nous avons été chargés de Dieu de ces choses. Nous les avons reçues de Dieu. Et c'est ainsi que nous acceptons cette responsabilité devant Dieu pour de prêcher la vraie et véritable parole dans le monde entier. Et nous témoignons que chaque enseignement des Écritures doit au moins se reposer sur deux ou trois témoins, deux ou trois ou plusieurs versets bibliques, un seul verset biblique, une seule citation, un seul verset. Chacun peut le tordre dans tous les sens comme il le veut, mais nous faisons qu'aller d'écriture en écriture, de parole en parole, de l'Ancien au Nouveau Testament, sans rien interpréter et expliquer. Nous laissons les Écritures expliquer les Écritures. Nous allons des Évangiles aux Épîtres, des Épîtres aux Actes des Apôtres, des Apôtres aux Écritures, des Écritures à l'Apocalypse, tel que Dieu l'a accordé pour conclure tout. Et nous remercions le Seigneur de ce qu'il nous a accordé ce privilège de croire seulement tel que les Écritures le déclarent. Cette parole de Romains, le chapitre 11, nous allons encore une fois et souvent avoir à la lire pour toujours de nouveau montrer l'importance de la parole de Dieu. Romains, le chapitre 11, à partir du verset 3 et 4. Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels. Moi seul, je suis resté et ils cherchent à m'ôter la vie. Maintenant, au verset 4, cette expression importante arrive. Mais quelle réponse Dieu lui donne-t-il? Nous sommes pas intéressés à la réponse qu'un homme donne, mais nous sommes intéressés à la réponse que Dieu donne. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu répond? Dieu répond toujours par sa parole, par les Écritures. Il va d'Écriture en Écriture. Ensuite, ici, il est dit, « Je me suis réservé 7 000 hommes, au verset 4, la deuxième partie, qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. » Autrefois, il y avait 7 000. Combien il y en a aujourd'hui, nous ne le savons pas, qui n'ont pas fléchi leur genou devant Baal. Mais le Seigneur connaît les siens. Ensuite, cette expression merveilleuse suit ici au verset 5. De même aussi dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Un reste. Je n'en peux rien. C'est Dieu qui a pris le choix, qui a fait le choix, et cela avant même la fondation du monde. Mais je suis reconnaissant de ce que nous avons la grâce d'appartenir à ce reste, d'avoir trouvé grâce devant Dieu, d'écouter et de recevoir et d'accepter ce que le Seigneur nous a promis et ce qu'il a dit dans sa parole. Au verset 6, nous avons aussi insisté là-dessus. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. C'est par la grâce que nous avons été appelés à sortir et que nous sommes sortis. C'est par la grâce que nous avons été mis à part, séparés. C'est par la grâce que nous croyons et écoutons la parole de l'heure et mettons en pratique, suivons, obéissons à la parole de l'heure. Car c'est de ça qu'il s'agit. C'est ce qui est plus important. Il ne s'agit pas seulement de l'écouter et de savoir, de la reconnaître quelle est la parole de l'heure, mais il s'agit aussi de l'obéir, de l'écouter, de la mettre en pratique, de la suivre. Et bien, mes frères et sœurs, nous avons aussi toujours eu à insister là-dessus. L'Église doit maintenant, à la fin, revenir au commencement. Et ensuite, nous devons aussi, dans Actes des Apôtres, le premier chapitre, aller en relation avec Luc, chapitre 24, où notre Seigneur, à partir du verset 47, a donné l'ordre que en son nom la repentance et le pardon des péchés sera prêché à toutes les nations. Et ensuite il met l'importance sur cette déclaration: demeurez, restez à Jérusalem jusqu'à que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut, jusqu'à que la promesse du Père se soit accomplie, et ensuite, c'est ensuite que vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous avons aussi ici insisté, si Pierre avait tenu une prédication sans avoir d'abord expérimenté l'effusion du Saint-Esprit, alors il n'y aurait pas eu 3000 personnes en un seul jour qui seraient devenues croyants et qui, selon Actes des Apôtres, chapitre 2, au verset 41, ils se sont laissés tous baptiser. En un seul jour, une prédication qui n'est pas accompagnée de la puissance du Saint-Esprit ne rassasie et ne montre aucun résultat biblique. Et nous tous, nous devons faire en sorte que d'abord la puissance du Saint-Esprit soit manifestée dans notre vie, comme au commencement, maintenant à la fin. C'est seulement alors nous comprenons que ce n'est plus Pierre, mais que c'est le Saint-Esprit qui accompagne la parole et qui convainc les hommes du péché, qui se répandent et qui reviennent au Seigneur, et qu'ils lui consacrent leur vie et que dans l'obéissance de la foi, il se laisse baptiser en un seul jour, 3000 personnes. Ici, dans Actes des Apôtres, le premier chapitre, l'homme de Dieu, au verset 2, a écrit concernant notre Seigneur jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisi. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 2. 40 jours, notre Seigneur est resté avec les siens et il s'est entretenu avec eux du royaume de Dieu. Ensuite, au verset 3, il est écrit, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Mais bien-aimés, nous sommes conscients que le Seigneur, par sa parole révélée, par sa parole vivante, qu'il a révélée de manière fraîche du haut des cieux, du trône, parle avec nous. Et devant nous, les choses ne sont pas seulement écrites comme ça dans Ésaïe, ou bien dans Jérémie, ou bien dans les Actes des Apôtres. Pour nous, elles deviennent une réalité, elles sont écrites dans nos cœurs. C'est une parole vivante, directe, que nous avons reçue du haut des cieux. Et avec un oui de tout notre cœur, nous avons la grâce de les recevoir. C'est ainsi que nous devons tous faire attention. Il est écrit dans Zacharie, le chapitre 2, dans les deux derniers versets, en relation avec le peuple d'Israël. Et nous bénissons Israël au nom du Seigneur. Et s'il vous plaît, venez tous avec nous, tous qui peuvent venir en Israël. Zacharie, le chapitre 2, verset 16. Zacharie, chapitre 16.
Auf dem heiligen Boden in Besitz nehmen und Jerusalem wieder erwählen.
Wo wird der Herr? Le Seigneur rétablira Israël. Où est-ce que le Seigneur recevra son Église pour qu'elle puisse revenir dans l'endroit où elle est? Non, c'est pas là où. Quand elle restera dans toutes les dénominations, là le Seigneur n'a pas la possibilité de parler. Et là, ce sont les prédicateurs, ce sont les prêtres qui ont un programme déjà pour toute l'année. Il a lu Zacharie 2, verset 12. Zacharie 2, verset 12. Tout le programme est pour toute l'année. Dans les dénominations, ils ont déjà leur programme écrit pour toute l'année. Ils ont seulement besoin de les laisser se dérouler. L'Éternel possédera Juda comme sa part dans la terre sainte et il choisira encore Jérusalem. Où est-ce que le Seigneur a quelque chose à dire? Où est-ce que le Seigneur a quelque chose à dire et peut parler et a la parole? C'est dans son Église. Dans son Église, il a la parole et pas quelqu'un d'autre. Ici, dans Zacharie, chapitre 2, verset 12, l'Éternel possédera Juda comme sa part. Comme son héritage, ou dans la sainte, dans la terre sainte, ou dans la terre sainte, ou dans le pays de la promesse, dans le pays des pères, il c'est là qu'il possédera Jérusalem et Juda. Et nous avons l'accomplissement de la promesse. Il faut que nous puissions revenir dans la parole de la promesse. C'est ainsi que l'Éternel aura la parole et possédera l'Église. Nous voyons que Jérusalem, les Juifs sont revenus de 143 pays dans le pays de la promesse. Et il est écrit, nord, rendez-les, sud, laissez-les sortir. Et tous reviennent dans le pays de leur père, sur la terre sainte. Et là, à Jérusalem, c'est là que Dieu, de nouveau, les possédera comme sa part. De la même manière, c'est le cas avec l'Église du Nouveau Testament. Je le répète encore une fois, où est-ce que Dieu aujourd'hui peut avoir la parole? Peut avoir la parole seulement dans son Église. Dans son Église. L'Église est l'Église du Seigneur. Tous, sinon en leur propre programme. Ensuite au verset... Il est dit ici, au verset 13, que toute chair fasse silence devant l'Éternel, car il s'est réveillé de sa demeure sainte. Bien, frères et sœurs, nous sommes dans le temps de l'appel à sortir. Nous avons souvent insisté, reconnaissant de ce que maintenant nous avons la grâce de vivre, avec la révélation de la parole et de la volonté de Dieu, dans toute la crainte et dans tout le respect devant l'ordre divin du salut et devant chaque parole qui est écrite dans un contexte bien précis. Et là où cela est écrit, c'est là que chaque verset a sa place. Et tous les autres versets qui appartiennent à cela doivent aussi être considérés. Ensuite, nous avons dans l'épître de Pierre, dans 1 Pierre, pas seulement toute une annonce, mais la constatation que nos frères, au commencement, ont prêché la parole par la puissance du Saint-Esprit et ensuite il est parlé de choses dans lesquelles les anges aussi aimeraient bien verser le regard. Dans 1 Pierre, chapitre 1, 1 Pierre chapitre 1, verset 12, il leur fut révélé, 1 Pierre chapitre 1, verset 12, que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Restez à Jérusalem, demeurez à Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut, a dit le Seigneur. C'est ainsi ensuite, seulement après, que vous serez mes témoins. Alors, vous porterez ma parole et je serai avec vous et j'accompagnerai ma parole et je la confirmerai par des signes, des prodiges et des miracles. L'Église doit revenir à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Nous devons avoir l'union, chercher l'union en esprit et la trouver et l'exprimenter ensemble. Et c'est pour cette raison qu'il est nécessaire que tous nous puissions abandonner nos vieilles connaissances et enseignements et de tout notre cœur nous laisser seulement enseigner par Dieu. Car c'est ainsi que c'est écrit, ce n'est pas un frère qui va enseigner les autres, mais chacun sera enseigné par Dieu. Et ainsi, nous venons aussi à ce point important. Pourquoi est-ce que tous ont mal compris? Repartons dans l'histoire de l'Église. Chaque parole de Dieu a été mal comprise, a été interprétée. Et partout, on peut le lire. Il y a des directions de foi, de confessions de foi qui ont apparu. Combien nous en avons aujourd'hui? 275, il y a quelqu'un qui écrit, même des milliers de différents groupes, si on veut compter tous les petits groupes. Et tous disent qu'ils croient au seul Dieu. Et ils ont la même seule Bible et chacun vient à des décisions tout à fait différentes, il y a des enseignements tout à fait différents, il y a des résultats tout à fait différents. Bien, frères et sœurs, c'est peut-être raison que Dieu nous a envoyé un message dans lequel il y a un résumé de tout le conseil du salut de notre Dieu, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, que ce soit les évangiles ou bien même jusqu'à l'Apocalypse. Nous vivons réellement après l'ouverture des sceaux. Nous vivons dans un temps et nous avons reçu l'accès aux choses que les prophètes n'avaient pas su. Ils sondaient, c'est vrai, pour savoir dans quelle époque ces choses s'accompliraient, que l'Esprit de Christ leur faisait voir. Et ils ont été repris dans la gloire avant le temps. Toujours de nouveau, le Seigneur nous dirait, bienheureux sont vos yeux. Et bienheureux, mes frères et sœurs, nous sommes conscients de la grâce qui est liée à l'appel à sortir, à la séparation. C'est en cela que notre âme est ancrée, car c'est ainsi que c'est écrit dans 2 Corinthiens au chapitre 6, à partir du verset 14. Qu'est-ce que la lumière a à faire avec les ténèbres, croyants avec les incroyants? Qu'est-ce que Christ a à faire avec Biliam? Qu'est-ce que l'Église Jésus-Christ, la troupe rachetée par le sang, a à faire avec tous ces assemblées fondées par des hommes? Notre Seigneur a dit toutes ces églises, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts les portes des morts ne pourront pas contre elles. Le Seigneur n'a pas 3 ou bien 4 sans églises. Il n'a qu'une seule église qui sort de toutes les églises et les églises libres, de toutes les langues et les nations, qui se soumet à Christ, le chef de l'église. Et là, il n'y a plus de doctrine étrangère et des prescriptions humaines ou bien de ce qui a été décidé dans des conciles. Tout cela n'est plus valable. Dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, c'est seulement la parole de Dieu qui est valable. Et cela dans toute éternité. Regardons encore dans quelques écritures pour nous représenter devant les yeux ce que Paul, déjà autrefois, avait dans le cœur, c'est-à-dire de présenter à Christ, de conduire à Christ une vierge chaste, une vierge pure. Dans 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 2 et 3. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 2. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Ici, il parle du mystère de Christ et l'Église. Et ensuite, sur verset 3, ce qu'il craignait. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Et ensuite, l'apôtre, peut-être que nous lisons cela pour que nous puissions la voir exactement. Au verset 4, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, en avance, car si quelqu'un s'amène vous prêchez un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Et ça, c'est le problème à l'intérieur des groupe de ceux qui se réfèrent de frère Branham et du message de l'heure. Si quelqu'un vient et leur dit, le prophète a dit, alors aucun d'eux pense à ouvrir la Bible. Alors tous sont dans un bon enthousiasme. Nous sommes seulement dans l'enthousiasme correct et juste, si dans ce que nous croyons, nous sommes en accord avec Dieu et sa parole. Une atmosphère qui est seulement fabriquée et créée par des hommes, nous n'en avons pas besoin. Nous avons besoin de la parole de Dieu originale, des bénédictions originales. Nous avons besoin des expériences primitives avec Dieu qu'avaient les premiers chrétiens dans la Bible. Et bien aimés frères et sœurs, que nous puissions nous attacher fermement à cela, à comprendre que ce n'est pas seulement nécessaire, ce n'est pas seulement important d'avoir écouté le message de l'heure, mais ce message-là, il va avant le retour du Christ. Mais la chose elle-même, elle doit suivre, tel que notre Seigneur lui-même l'a dit, je vais vous préparer une demeure et je reviens bientôt. C'est ainsi que toutes les promesses qu'il a données sont oui et sont amen. Celui qui veut encore mieux le savoir, qui puisse lire dans Romains le chapitre 9, au moins encore le verset 8, au verset 8. Romains chapitre 9, au verset 8. Romains chapitre 9, verset 8. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Pourquoi est-ce que nous insistons ici dans chaque prédication, Romains 9, verset 8, sur les promesses? Et Abraham réellement est un exemple, il nous est donné comme exemple. Il était celui qui habitait de l'autre côté de l'Euphrate. Et voilà, Dieu le Seigneur a quitté le ciel, est venu sur cette terre et adresse la parole à un homme. Cet homme auparavant avait habité avec Nahor et avait servi de Dieu étranger avec d'autres, a marché dans ses propres voies et avait sa propre religion. Mais au moment où Dieu, le Seigneur, descendait et que Il visitait Abraham. C'est ainsi que quelque chose s'est passé. Et cela s'est passé une fois pour toutes. Bien-aimés frères et sœurs, une prédication ne nous suffit pas. Il faut que le Seigneur nous rencontre dans sa parole. Et c'est au moment où le Seigneur nous rencontre dans sa parole et que l'appel à sortir peut avoir lieu et que les promesses dans notre cœur sont reçus. C'est à ce moment-là que nous ne regardons plus aux circonstances, que nous ne regardons plus à ce que nous voyons, mais nous regardons à l'invisible comme si nous le voyons. Et il est écrit dans l'Épître aux Hébreux que Dieu a confirmé la parole avec un serment. Lisons cela dans Hébreux. Le chapitre 6, lisons les paroles merveilleuses dans Hébreu, le chapitre 6, au verset 13 et 14. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même, parce qu'il ne pouvait pas jurer par un plus grand que lui. Imaginez-vous comment est-ce que Dieu vient à l'homme, lui tend les mains. Abraham est devant lui et il lui donne la promesse. Et il voit Abraham, un homme comme tous les autres. Et pour qu'il ne tombe jamais dans le moment où il pourrait être tenté. Dieu jure à Abraham en faisant un serment que les promesses qu'il lui a faites, il les accomplira. Et que cela n'est pas important et extraordinaire. Bien, frères et sœurs, est-ce que Dieu a nécessaire de jurer? Mais non, Dieu n'est pas nécessaire. Mais pour Abraham, c'était nécessaire pour que jamais un doute vienne dans son cœur. Dieu a juré par lui-même et a dit, je te le jure, tel que je l'ai dit et tel que je l'ai promis. C'est ainsi que cela s'accomplira. Bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe avec toi et qu'est-ce qui se passe avec moi? Qu'est-ce qui se passe avec nous? Oh, la certitude que nous avons dans la parole de Dieu. Toutes les paroles sont oui et sont amen. Et toutes les promesses de Dieu nous appartiennent, car nous sommes la semence spirituelle d'Abraham. Ensuite, il est écrit au verset
14.
Et dit certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Dieu a juré et Abraham a cru. Et ensuite, il est écrit à partir du verset 15. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtenu ce qui lui avait été promis. N'avons pas lu dans Jacques 5, verset 7. Persévérez, bien-aimés frères. Abraham a persévéré. Il savait que Dieu avait donné la promesse, que Dieu l'a confirmé par un serment que Dieu l'a dit, c'est ainsi que cela va s'accomplir. Est-ce que cela n'est pas non plus notre foi? Si. Est-ce que notre foi n'est pas de cette manière ancrée? Tel que tu l'as dit, c'est ainsi que cela s'accomplira. C'est ainsi que cela s'accomplira. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Il a persévéré et a obtenu ce qu'il lui avait été promis. Bien, frères et sœurs, rien sur terre est si certain que l'accomplissement de ce que Dieu a promis, nous a promis. Personne ne peut rien changer à cela, c'est impossible. Rien n'est plus certain que l'accomplissement de ce que Dieu a promis. Dieu, avant même la fondation du monde, a déjà fermement établi son plan. Il connaissait la fin avant le commencement. Il sait ce qui sera et ce qui viendra. Et ensuite, il est écrit au verset 16 et 17. Oh, les hommes jurent par celui qui est plus grand que. Et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. Ensuite encore, il est fait référence à Dieu, verset 17. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment. Il n'a pas seulement donné les promesses. Il n'a pas seulement juré par lui-même. Il a intervenu par un serment. Il s'est porté garant que ce qu'il a promis doit s'accomplir, va s'accomplir. Ça, c'est quelque chose de merveilleux. Et cela est valable pour nous tous aujourd'hui, bien-aimés frères et bien-aimées sœurs. Dans Romains, le chapitre 5, nous avons les paroles merveilleuses concernant la rédemption, le pardon, la grâce et le salut. Romains, chapitre 5, verset 9. À plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Ensuite, nous allons au verset 18 et 19, où encore une fois, il est confirmé ce qui s'est accompli pour nous, le pardon, la grâce et le salut. Romains 5, versets 18 et 19.
Wie es durch eine einzige Übertretung für alle Menschen.
Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Nous n'avons rien fait pour cela, rien ajouté, rien fait pour naître dans le péché. Nous avons rien fait pour que le Rédempteur devienne pour nous péché, pour que en lui nous devenions la justice divine. C'est peut-être raison que au verset 19 il est écrit: car comme par la désobéissance d'un seul homme beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul beaucoup seront rendus justes. Tout est accompli pour nous et maintenant cela se passe par la grâce de Dieu par nous. Nous avons accepté le pardon, la réconciliation, la grâce de Dieu. Nous l'avons expérimenté personnellement et nous avons accepté ce que Dieu nous a promis et a accompli pour nous en Jésus-Christ, notre Seigneur et Rédempteur, par la grâce de Dieu. Et nous croyons que Dieu était en Christ et a réconcilié le monde avec lui-même. Nous croyons que le chemin de Dieu à nous est notre chemin à Dieu et qu'il n'y a qu'un seul qui pouvait dire: Je suis le chemin, la vérité et la vie. Dans Romains chapitre 8, verset 3, il est écrit, Romains chapitre 8, verset 3, il est écrit, Romains chapitre 8, verset 3, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre fils, dans une chair semblable à celle du péché. C'est Dieu qui avait prononcé la condamnation et c'est Dieu lui-même qui, notre Seigneur lui-même, qui a porté cette condamnation au moment où tes péchés et mes péchés, tes fautes ont été placés sur l'agneau de Dieu. À cause de nos péchés, c'est à cause de nos péchés que cela a eu lieu. Et alors notre Seigneur dit, si vous croyez pas que je le suis, vous mourrez dans vos péchés. Nous croyons qu'il est celui qui devait venir. Nous croyons qu'il est le grand je suis. Dans l'Ancien Testament, il n'était pas encore comme fils de Dieu manifesté. Dans tout l'Ancien Testament, il était le Seigneur, le Je suis, qui marchait dans le désert, qui parlait aux prophètes, qui a visité Abraham, et qui, selon Genèse 18, s'est assis pour manger avec Abraham et les deux anges qui allèrent ensuite à Sodome pour tenir avec Abraham le souper. Dans l'Ancien Testament, il était le Seigneur, Yahvé. Dans le Nouveau Testament, il est Yahshua, Yahvé Sauveur. Même le mot hébreu en soi-même nous dit qui est le Rédempteur, qui était le Rédempteur et qui est le Rédempteur. Yahvé, l'Éternel, le même je suis. Et dans le Nouveau Testament, tu l'appelleras Yahshua, Yahvé, ensuite Shua, Sauveur. Il s'appellera Yahvé Sauveur personnel. Personnellement, Yahvé est venu lui-même pour sauver. Et c'est ainsi que vous pouvez lire qu'après la résurrection de notre Seigneur, il n'a jamais plus été désigné du nom de Fils. Toujours le Seigneur. Le Seigneur. Le Seigneur. Vous avez seulement besoin de le lire. Vous savez tous que tout a sa place dans les Saintes Écritures. Ensuite, nous allons jusqu'à 1 Corinthiens au chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 3. Que personne ne peut dire que Jésus est le Seigneur en dehors du Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, dans le Saint-Esprit. Et nous pourrions aller d'Écriture en Écriture. Il est tout en tous. Il est l'agneau de Dieu. Il est le lion de la tribu de Juda. Il est le fils de Dieu. Il est le fils de David. Il est le fils de David. Il est le fils d'Abraham. Il est le fils de l'homme. Il est médiateur, avocat. Il peut être tout en tous. Ne vous inquiétez pas. Et il devait être tout en tous. Et cela pour nous, à cause de nous, pour que en lui, nous puissions avoir tout. Oh, loué et exalté, soit le Seigneur notre Dieu. Ça, ce ne sont pas des points d'enseignement sur lesquels on se dispute. Non, ça, ce sont des vérités bibliques pour l'union des croyants, pour qu'ils soient reconnaissants les uns pour les autres et pour la parole de Dieu. Ici, il y a encore ces versets qui doivent être lus. Mais allons dans Colossiens, le premier chapitre, pour encore une fois nous montrer de quelle manière les hommes de Dieu, au commencement, ont prêché l'évangile et ont exposé la vérité biblique. Colossiens, le premier chapitre, au verset 14. En qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Dites amen à cela. Nous n'allons pas avoir le pardon des péchés, recevoir le pardon des péchés dans le futur, quelque part. Non, il fut meurtri à cause de nos péchés, frappé, meurtri à cause de nos maladies. La condamnation qui nous donne la paix est tombée sur lui pour que nous ayons la paix et que par ses meurtrissures, nous sommes guéris par sa grâce. Ce ne sont pas les choses qui vont se passer, mais ce sont les choses qui se sont déjà passées. Ensuite, ici au verset 16, car en lui ont été créées toutes les choses. Nous venons de le dire. Il était, n'est-ce pas, celui qui marchait dans le jardin d'Éden. La parole, lui qui a appelé toutes choses à l'existence. Et aujourd'hui encore, selon Hébreux 1, par sa parole créatrice, il porte tout. Ensuite, nous lisons au verset 16, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Verset 17. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Et maintenant arrive notre partie. Ta partie et ma partie. Il est la tête du corps de l'Église. Il est la tête du corps, c'est-à-dire de l'Église. Verset 19. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui.
Au
verset 20. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Tout ce qui est sur la terre et tout ce qui est dans les cieux. Il a voulu par lui tout réconcilier pour lui-même. Alors nous n'avons pas une personne religieuse, bien alors d'une institution religieuse. Dieu n'a pas établi de religion. Dieu, comme Père, dans son Fils, seul engendré de lui, s'est révélé lui-même. Nous lisons. Nous lisons comme dans Galates 4. Au verset 4, il est écrit, pour nous accorder l'adoption, Galates chapitre 4, verset 4. Galates chapitre 4, verset 4.
Sandte Gott seinen Sohn, der von einem Weibe geboren.
Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Verset 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lesquels crient Abba, Père. Frères et sœurs, c'est une œuvre accomplie. Une œuvre accomplie que Dieu nous a accordée à Jésus-Christ, notre Seigneur. Celui qui n'en prend pas part, ce Père. Et cela est une douleur pour nous. Mais à tous ceux qui croient la parole de Dieu ou bien le message qui nous a été accordé, ou bien alors tous ceux qui ne croient pas à ce message et qui ajoutent quelque chose à ce message ou bien retranchent quelque chose pour leur propre perdition, tord le sens des Épîtres et des Écritures, pour leur propre perdition. Ils écoutent, mais ils tordent le sens pour leur propre perdition et pour la perdition de ceux qui suivent de tels frères et soutiennent de tels frères qui réellement n'ont rien d'autre à faire. Et attachez-vous, attrapez-vous bien pour ce que je vais dire. Ce sont des gens qui se concentrent pas sur un verset biblique qui pourrait servir au peuple de Dieu. Ils se concentrent seulement sur des citations qui peuvent être comprises de cette manière et aussi de cette manière, qui peuvent être interprétées de cette manière et de l'autre manière. Et toujours de nouveau, ils reviennent à ce résultat faux. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas l'Esprit de Dieu qui conduit dans toute la vérité. Ils ont beaucoup d'idées qu'ils ont rassemblées. Comme déjà hier, je le disais, certaines de ces personnes qui eux-mêmes sont nés après l'année 63 prétendent que le Seigneur est revenu déjà en 63 et qu'il a besoin de tout un laps de temps. Et il se réfère à Jésus-Christ notre Seigneur qui seulement à 30 ans a commencé son ministère. C'est ainsi qu'ils disent que le Seigneur est revenu depuis 63, mais c'est un laps de temps. Comme c'est écrit dans Genèse qu'un Lévite peut commencer son ministère seulement à 30 ans. C'est ainsi que notre Seigneur a dû accomplir la loi. Et il a commencé son ministère à 30 ans. Parce qu'un Lévite dans Lévitique doit peut accomplir son ministère qu'à 30 ans. Alors, qu'est-ce qui doit se passer avec le retour de Jésus-Christ? Qui va s'accomplir dans un seul jour, en une seule heure, tel que l'étincelle apparaît et disparaît. C'est ainsi, bien, frères et sœurs. Nous devons toujours de nouveau le dire en insistant. Pour nous, un grand privilège d'avoir reçu de Dieu la crainte pour sa parole et pour lui, de ne jamais avoir le désir de savoir quelque chose mieux que les autres et d'être quelque chose, de valoir quelque chose. Mais comme c'est écrit dans le prophète, tu m'as accordé une oreille de disciple. Et ensuite, il est écrit, il s'ajoute à cela dans Isaïe, que le Seigneur accorde à ses siens, à ceux qui marchent avec lui et ceux avec qui il marche. Il peut parler avec eux de toute la Bible. Il peut commencer avec Moïse, avec les psaumes, continuer, revenir aux prophètes, avec l'Ancien et le Nouveau Testament. Et voilà, il ne parle pas seulement, mais il ouvre notre intelligence pour l'accomplissement de ce qui est écrit. Et c'est ainsi que notre Seigneur peut toujours de nouveau prendre le livre des livres entre ses mains et dire, aujourd'hui, cette écriture est accompli devant vos yeux. Beaucoup de prophéties s'accomplissent devant nos yeux. Nous n'avons pas pu venir à parler des événements dans le monde actuel, mais nous avons tous déjà compris que nous sommes à la fin de la fin des temps. Résumons ce que nous avons entendu. Dans cet âge de temps prophétique, nous avons reçu un ministère prophétique, car il est toujours encore écrit que Dieu ne fait rien sur terre sans avoir révélé d'abord ses écrits à ses serviteurs, les prophètes. C'est ainsi que c'est écrit, Amos 3, verset 7. Et c'est seulement après qu'il est écrit que est-ce qu'une trompette sera sonnée dans une ville sans que les habitants s'effraient. Quand il s'agit de la partie prophétique de l'histoire du salut, les prophètes, alors des prophètes sont envoyés, et dans le Nouveau Testament, ce sont des apôtres et des prophètes. Et celui qui va dans Apocalypse 10, là, de nouveau, la relation est faite telle, et il est dit dans Apocalypse 10, verset 7, tel qu'il a révélé à ses serviteurs les prophètes. Là aussi, bien frères et sœurs, il y a toujours des paroles clés qui nous ouvrent la compréhension pour comprendre le contexte dans lequel ces choses sont écrites. Si par exemple Paul écrit aux Éphésiens, alors il dit tel qu'il l'a révélé à ses apôtres et à ses prophètes. Et celui qui lit dans Apocalypse 10, il peut constater ce qui est écrit ici. Apocalypse chapitre 10. Apocalypse chapitre 10, verset 7.
In den Tagen, in denen die Stimme des siebenten Engels erschallt,
mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes.
Als Freudenbotschaft zuverlässig geoffenbart hat. Im Übrigen,
en fait, ça je le dis maintenant pour tous les frères qui écoutent. Ici, il s'agit du septième ange de trompette, pas du septième ange de l'âge de l'église de Laodicée. Mais dans Apocalypse 10, il s'agit du septième ange de trompette, des trompettes, duquel il est écrit ici depuis l'ouverture du septième sceau. Il les parlait dans Apocalypse, le chapitre 8, au verset 1. Il est parlé de ce calme, ce silence de d'une demi-heure. Et ensuite, au verset 2, et je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu, et sept trompettes leur furent données. Au verset 7, la première trompette, au verset 8, la deuxième trompette, au verset 10, la troisième trompette, au verset 4, au verset 12, la quatrième trompette, le cinquième au chapitre 9, au verset 1, le cinquième, et ensuite le sixième au chapitre 9, verset 13. Et cette trompette-là nous conduisent déjà aux quatre anges de jugement qui sont liés à l'Euphrate pour détruire le tiers du monde. Et écoutez bien, dans Apocalypse 7, cela est annoncé. Dans Apocalypse 9, cela s'est accompli. Apocalypse 7, verset 1. Après cela, je vis quatre anges, quatre anges, debout aux quatre coins de la terre. Ils retenaient les quatre vents de la terre, afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Imaginez-vous, rappelez-vous, quatre anges qui sont liés. Ici, il est parlé de quatre anges. Et ici, dans les premières trompettes, dans Apocalypse 9, au verset 13 et 14, le sixième ange sonna de la trompette. Et j'entendis une voix venant des quatre cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu et disant au sixième ange qui avait la trompette, délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve, l'Euphrate. Et cela a lieu, ce qui est décrit après, qu'un tiers de l'humanité n'existera plus. Ici, nous avons le sixième ange qui sonne la trompette. Et ensuite, au chapitre 10, au verset 7, c'est seulement l'annonce disant que quand, donc au jour, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand au futur, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Bien-aimés frères et sœurs, j'aime l'ordre divin dans la parole. Et je remercie Dieu pour la conduite de son Saint-Esprit. Aucun homme ne se retrouverait les têtes intelligentes dans tout le passé ont souvent essayé et ils ont fait qu'interpréter et quelque part ils sont arrivés à ce point où c'était plus possible encore d'interpréter, ils étaient allés déjà trop loin. Maintenant, nous voulons dire les choses suivantes et finir et venir à la fin de cette réunion et parler du dernier ministère, le ministère de Frère Branham, par lequel tous les mystères qui étaient cachés ont été révélés. Du jardin d'Éden, du premier chapitre de la Bible jusqu'au dernier, tout a été révélé. Rien est resté obscur. La lumière brille. Par la révélation, on peut voir tout. Mais, et là on doit être attentif, frère Branham, à chaque fois qu'il parlait d'Apocalypse 10 au verset 7, il a parlé des mystères au pluriel, mais pas du mystère au singulier, en mentionnant Apocalypse 10, verset 7. Et ça, en fait, il faut que cela soit constaté par les frères. Il faut que cela soit constaté par tous les frères qui se disent du prophète, de son ministère, et disent être la voix du message. Bien, frères et sœurs, j'ai eu souvent à le dire. Si le pluriel est écrit, alors ça veut dire que ici, le pluriel a sa place. Et si le singulier, si cela est écrit au singulier, ça veut dire que le singulier ici a sa place. Toujours, nous devons laisser les choses dans son ordre divin. Mais ici est le point. Et pourtant, frère Branham n'était pas l'homme par lequel, au singulier, le mystère de Dieu qui est Christ devait s'accomplir. Non. Par son ministère prophétique, en vertu d'une révélation divine qui lui avait été accordée comme prophète, réellement, tout lui a été révélé. Tout a été révélé. Sur la divinité, sur le baptême, sur le souper du Seigneur, sur la chute de l'homme, fondamentalement, sur l'élection, tout a été révélé. Tous les thèmes bibliques ont été révélés. Au pluriel, les mystères. Mais quand il s'agit d'Israël, alors seulement ce seul mystère. Il s'agit du mystère de Dieu au singulier. Et le mystère de Dieu, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu manifesté dans la chair, justifié dans l'esprit, reçu dans la gloire, prêché parmi les nations. Nous remercions Dieu, Seigneur, pour la plénitude de sa parole, pour chaque parole, pour chaque chapitre, pour chaque sujet. Nous sommes reconnaissants à Dieu de tout notre cœur. Nous souhaitons à tous nos frères et à toutes nos sœurs dans le monde entier que l'Église épouse puisse marcher ensemble dans le même pas. Si nous sommes tous de l'Église épouse, nous devons marcher ensemble dans le même pas et être trouvés quand le Seigneur reviendra dans l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu. Un seul baptême, une seule foi, un seul Dieu. Pas des doctrines étrangères, pas de tordes, les prédications tordes, les citations tordes de la Bible, mais un exposé vrai et pur et clair de la parole de Dieu, tel que par la grâce de Dieu, cela nous a été révélé. Et que tous ceux qui sont de Dieu écoutent les paroles de Dieu. Et si, dans la foi, nous les écoutons, alors elles nous seront révélées par la grâce de Dieu à lui, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu seul, soit la gloire, l'honneur et l'adoration dans toute éternité. Alléluia. Amen. Amen. Nous nous levons pour la prière. Chantons encore ce chœur. Tel que je suis, sans rien de moi. Pendant que dans la prière calme nous persévérons, je voudrais demander particulièrement adressé à tous ceux qui s'ajoutent de manière nouvelle. Je voudrais demander simplement, avez-vous expérimenté une conversion, une régénération, une nouvelle naissance? Est-ce que la parole de Dieu comme semence est tombée dans votre cœur, a été ensemencée, plantée dans votre cœur? Et bien, mes frères et sœurs, à nous et dans le monde entier, adressé à tous les frères et les sœurs, la demande est faite de ne pas accepter de mélange et d'interprétation et d'explication, mais seulement la vraie et pure parole de Dieu qui demeure éternellement. Combien sont d'accord à ne pas prêter nos oreilles à ne serait-ce qu'une seule interprétation et explication sur message ou bien parole ou citation, mais de demeurer dans la parole de la vérité, dans l'éternité. Alors dites Amen.
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 Amen. Que, et cela confirme que nous sommes la semence de Dieu, de la semence divine, car dans Jean 8, notre Seigneur s'adresse aux scribes et pharisiens et leur dit, pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas accepter ma parole? Accepter. Pourquoi est-ce que vous ne pouvez même pas écouter ma parole? Et il donne lui-même la réponse. Parce que vous n'êtes pas de Dieu. C'est déjà en cela que nous voyons l'épreuve. Est-ce que nous avons un oui à toute la parole de Dieu? Et si nous l'écoutions pour la première fois, laissez-moi dire cela pour la première fois, pour encore, si avant même la fondation du monde, tu as été élu comme fils de Dieu, comme fille de Dieu, alors ton cœur s'ouvrira comme le cœur de Marie et de Lydia et de tous ceux tel que leur cœur s'est ouvert, tous ceux qui écoutaient la parole de Dieu. La résistance est abandonnée, les propres connaissances sont abandonnées. Nous mettons de l'ordre dans notre cœur, dans notre vie, avec tout notre vieux levain, et pour devenir nous-mêmes une nouvelle pâte de douceur, de vérité, comme Paul le dit dans 1 Corinthiens, qui, comme Abraham, de tout son cœur veut croire et se séparer, se détacher de tout ce qui ne vient pas de Dieu et de vivre de la conviction que ce que Dieu a promis, il accomplira. C'est l'Église. L'Église, la chose la plus précieuse, la plus merveilleuse, 1 Corinthiens 5, verset 7, que Dieu a sur terre, c'est l'Église rachetée par le sang, l'Église des premiers-nés. Et c'est peut-être raison, bien les frères et sœurs, nous sommes précieux aux yeux de notre Dieu. Et Jésus-Christ, notre Seigneur, a versé son sang et sa vie pour nous, nous a rachetés. Réjouissez-vous, il nous a rachetés. Nos fautes et nos péchés sont pardonnés. Nous avons trouvé la grâce auprès de Dieu. Combien veut lever la main pour que nous puissions penser à vous dans la prière? Tous, nous aurons plutôt voulu lever tous nos mains en fait et prier. Faisons-le. Faisons-le maintenant. Bien-aimé Seigneur, ta parole ne revient pas non plus vide aujourd'hui, mais elle produit l'effet dans le monde entier pour lequel tu l'as envoyé. Appelé à sortir, enseigner, corriger, révéler. Ô bien-aimé Seigneur, aie ton chemin avec ton Église. Bénis, bénis, comme tu as béni Abraham. Remplis, remplis, accomplis les promesses, accomplis les promesses. Bientôt, nous croyons, nous attendons cela et nous te donnons à toi seul l'honneur. Alléluia! 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 Louez le Seigneur, louez son saint nom. Alléluia.
Alléluia.
Alléluia. Alléluia.
Alléluia.
Alléluia.
Alléluia.
Oh, c'est Jésus. Oh, c'est Jésus.
Amen.
Nous nous asseyons. Aujourd'hui, nous n'avons même pas parlé du baptême. De baptême. Celui qui prend la décision, l'eau est à la disposition. Nous remercions Dieu aussi pour ce week-end. Qu'est-ce que je dois dire? Vous savez, avec tous ces voyages et tout, et tout ce qui est lié au ministère nuit et jour, physiquement, ce n'est pas toujours facile comme on aurait bien voulu l'avoir, mais à cause de la parole de Dieu, à cause de l'Église épouse qui est encore éparpillée partout dans tout le monde entier. J'ose toujours de nouveau me mettre en voyage, aller en voyage et porter le message divin merveilleux. Et je vous demande de prier pour moi. Pensez à moi pour que le Seigneur fidèle m'accorde sa parole telle que cela doit être. Je ne veux rien d'autre, rien de toi être. Être seulement la bouche du Seigneur et transmettre ce qui est écrit dans cette parole. Encore une fois, je voudrais insister et dire, nous souhaitons les bénédictions particulières à tous ceux qui sont là pour la première fois et les bienvenus. Et nous croyons que le Seigneur, bientôt, que le Seigneur spirituellement vous conduira dans la même position dans laquelle nous sommes, nous qui sommes sous l'écoute de cet enseignement depuis des années déjà et qui grandissons et qui ont été conservés dans cette croissance spirituelle par sa grâce. la grâce de reconnaître le ministère de frère Branham selon les Écritures et de le mettre à sa place. C'est la grâce que Dieu nous accorde de mettre à sa place chaque parole dans le contexte dans lequel il se trouve. Ça, ce n'est pas seulement le ministère direct prophétique, ça, c'est le ministère de docteur. Car les prophètes en grand ont dit, ce qui leur a été révélé. Les apôtres ont exposé en détail ce que les prophètes ont vu et ont reçu révélé. C'est la même chose encore maintenant. Tout ce que Dieu voulait nous révéler, il l'a révélé par le ministère de frère Branham. Et vous savez tous exactement qu'il a commencé, il a reçu l'ordre, il lui a été dit ne voyage plus, mais retourne à Jérusalem et à son ville. Et emmagasine dans la chapelle par les prédications que tu tiendras la nourriture spirituelle. Ensuite, il a dit, si je ne suis plus, vous vous rappellerez de ce que je vous ai dit. Et avant son retour à la maison, avant son décès, Dieu lui avait révélé. Déjà en 1962, il avait dit que d'emmagasiner la nourriture, la nourriture est emmagasinée comme ça, en cru. Et nous habitons ici, n'est-ce pas, dans une bonne région. Notre voisin a un grand centre commercial. Et si vous allez à Réal à côté, vous allez voir que les aliments sont crus, mais ce n'est pas encore des aliments sur la table. C'est seulement quand les achats ont été faits et que tout est arrivé à la maison, alors la nourriture est préparée, la cuisine est faite. C'est de la même manière que Dieu l'a fait en donnant la parabole d'emmagasiner et de distribuer. Il a révélé cela et il nous l'a accordé. Vous pouvez comprendre cela. C'est en fait plus clair que le 1 fois 1, le 1 fois 1. Alors nous remercions Dieu aussi dans ce point pour l'ordre divin. Bien, mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas nous permettre d'être à l'extérieur de l'ordre divin. C'est pour cette raison, aujourd'hui, que cela soit dit. Nous avons de la responsabilité devant Dieu. La plus grande responsabilité qui est déjà exigée sur terre, c'est-à-dire maintenant, directement avant le retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et bien, mes frères et sœurs, je porte cette responsabilité presque comme un fardeau. Mais le Seigneur m'aide. Et je voudrais, comme Paul a écrit à Timothée, dire, exécute l'ordre que tu as reçu d'une manière que tu sois sans reproche jusqu'au jour du Seigneur Jésus-Christ. C'est les paroles de Paul à Timothée. Et je voudrais le dire et prêcher la vraie parole d'une manière que, ensemble avec vous, je me tienne devant Dieu lors du retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et ensemble, nous verrons Dieu. Ça, c'est la promesse. Heureux sont ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Recevez des salutations en Finlande, recevez des salutations dans tous les pays, dans toutes les villes, dans toute l'Europe, que ce soit la Pologne, la Slovaquie, la Tchèque, l'Italie, l'Autriche, la Suisse. Recevez des salutations partout. Recevez des salutations à Pretoria, partout, à Montréal. Recevez des salutations à pour le Ouzbékistan. Maintenant, nous demandons que notre frère du Ouzbékistan encore une fois vienne devant pour que nous puissions ensemble prier pour lui. Nous avons mentionné cela, un pays complètement musulman dans lequel il prêche la parole. Il est encore ici ou bien est-ce qu'il est déjà parti? Il est déjà parti. Nous sommes liés avec tous. Ça n'a pas d'importance où ils sont. Il y a seulement qu'une seule épouse, une seule église épouse, seulement qu'un époux. Et l'épouse est appelée à sortir de toutes les langues, les peuples et les nations. Nous voulons nous lever. Et je demande au frère Rousse qu'il puisse prier avec nous. Dis au frère, bien-aimé frère, nous sommes, il n'y a qu'une seule église épouse sur terre. Et elle vient de tous les peuples, les langues et les nations. Dieu t'a placé dans ce pays. Il t'a accordé la révélation. Qu'il puisse t'accorder la sagesse et la grâce pour que la parole révélée, tu puisses la dispenser correctement et que l'onction du Saint-Esprit soit sur toi, se repose sur toi et que le Seigneur puisse t'accorder sa grâce et que pour que la parole de la vie sorte de ta bouche, pour que ceux qui sont perdus soient sauvés et que ton peuple soit et que son peuple soit béni. Nous prions maintenant pour toi comme église. Nous nous tenons derrière toi et nous te soutenons. Nous sommes liés avec toi. Frère Rousse, tu peux aussi te lever et prier. Oui. Oui. Seigneur, nous avons entendu ta parole. Accorde ta grâce pour que nous puissions la mettre en pratique. Nous te le demandons dans ton saint nom. Béni partout. Dans tous les peuples, les langues et les nations. Partout où ton peuple se trouve. Nous te le demandons. Sois avec nous. Sois particulièrement avec le frère Frank. Sois avec le frère. Oui. Nous te demandons tout cela. Dans le Saint-Nom de Jésus. Amen. Sois béni de la bénédiction du Dieu Tout-Puissant. Sois béni dans ta vie terrestre. Et sois béni dans le ministère de Dieu, dans le ministère, dans l'Église, de l'Église. Que la bénédiction de Dieu se repose sur toi, dans le saint nom de Jésus-Christ. Alléluia.
Amen.
Nous saluons tous, remets nos salutations au nom de Saint-Jésus-Christ. Amen. Encore une fois, merci de ce que vous êtes tous venus. Merci pour toutes les prières. Merci pour tout le soutien. Et maintenant, j'ai encore le souhait, au cas où quelqu'un voudrait prendre une Bible pour un ami, venez devant en et les frères vont placer la table et placer la Bible là-dessus. Prenez-la, peut-être qu'il y a quelqu'un que vous avez sur le cœur à qui vous voulez transmettre cette Bible. Aussi nos frères d'autres pays, que Dieu vous bénisse et soit avec vous tous. Chantons encore une fois, tu es digne, tu es digne.
Amen.
Amen. J'espère que tous ceux que nous n'avons pas pu saluer, que nous n'avons pas pu mentionner de tous les différents pays, malgré tout, savent que nous sommes liés avec eux. Maintenant, nous saluons tous les uns les autres. S'il vous plaît, venez devant si vous voulez aussi partir avec une Bible.